Le Moyen-Orient s'embrase et la guerre fait rage entre Israël et le Hamas. Après d'intenses raids aériens sur l'enclave palestinienne en représailles aux tirs de roquettes du Hamas, l'armée israélienne est passée à l'offensive terrestre. Le bilan humain côté palestinien ne cesse de s'alourdir. Principales victimes de cette violence, les civils et parmi eux les enfants. Dans la bande de Gaza, les agents de l'UNICEF, l'Agence des Nations Unies pour l'enfance, sont confrontés chaque jour aux conséquences des bombardements sur les plus jeunes. C'est ce que nous décrivait Catherine Vibel, la porte-parole de l'UNICEF en Palestine.
Ce que nous commençons à voir, ce sont des enfants qui sont très perturbés, qui ont arrêté de manger, qui sont très nerveux, n'arrivent pas à dormir, des bébés qui cessent de réagir quand leurs parents sont là. C'est évidemment en moins de 6 ans la 3e fois qu'il y a une escalade de violence à Gaza et c'est très difficile pour certains enfants de s'y faire. On considère qu'à l'heure actuelle, il y a au moins 25 000 enfants à Gaza qui ont besoin d'un soutien psychologique en urgence.
Mossoul, autrefois capitale du christianisme en Irak, s'est vidée de ses chrétiens. Les djihadistes de l'État islamique ont ordonné aux chrétiens de la ville de se convertir à l'islam, de payer l'impôt islamique ou de quitter leur maison. C'est ainsi que les dernières familles chrétiennes qui avaient choisi de rester ont dû fuir dans la précipitation. Certaines ont été rançonnées. Nous avons joint Faraj Benoît Kamura, président de l'association Fraternité en Irak.
Des voitures avec des haut-parleurs ont sillonné la ville, indiquant que les chrétiens avaient le choix entre 3 options. La première, se convertir. La deuxième, payer un impôt, la jizya. Et la troisième, partir, ou alors sinon subir l'épée. Par conséquent, il y a eu une véritable panique. La centaine de familles chrétiennes qui se trouvaient encore à Mossoul a quitté la ville avec précipitation. Ces familles au checkpoint de sortie de Mossoul ont été rançonnées, elles ont été fouillées, et pour ceux qui avaient une voiture encore à peu près neuve, on leur a volé leur voiture.
Et c'est dans ce contexte que les musulmans du monde entier s'apprêtent à fêter l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du mois sacré du Ramadan, ce sera le 28 juillet prochain. À cette occasion, le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux leur a envoyé un message, signé par le cardinal Jean-Louis Torrent, président du dicastère, et son secrétaire le père Miguel Ayuso. Ce message a pour titre « Vers une authentique fraternité entre chrétiens et musulmans ». Le cardinal Jean-Louis Torrent nous explicitait le sens de ce message.
Nous sommes tous des êtres créés, nous nous reconnaissons comme frères et sœurs de la grande famille humaine. Alors face aux situations dramatiques et à l'incertitude de l'avenir, nous reconnaissons frères et sœurs musulmans et l'avenir dépend de la cohésion de cette famille humaine, de la collaboration entre ces deux religions. Nous sommes partis des diverses situations où les chrétiens et les musulmans vivent ensemble et souffrent ensemble. Donc nous devons continuer plus que jamais ce dialogue et ne jamais manquer une occasion de construire des ponts là où nous vivons.
La Commission européenne a un nouveau président, Jean-Claude Juncker. L'ancien Premier ministre luxembourgeois succède ainsi à José Manuel Barroso. Sa marge de manœuvre pour conduire sa politique risque d'être faible entre la perte d'influence de sa fonction et les crises économiques. Mais son expérience au cœur des institutions européennes pourrait lui donner un avantage. C'est le point de vue que nous partageait Philippe Poirier, coordinateur du programme Gouvernance européenne à l'Université du Luxembourg.
Monsieur Juncker a été habitué, par sa très longue expérience de Premier ministre du Luxembourg, à établir des compromis entre différents gouvernements au sein du Conseil européen et au sein de l'Eurogroupe. Donc c'est plutôt sa capacité de synthèse, de recherche de compromis qui permettra d'avoir une vraie marge de manœuvre, non seulement pour lui, mais pour la Commission entière.
Le Japon s'achemine vers un retour au nucléaire. 3 ans après la catastrophe de Fukushima, l'autorité japonaise de régulation nucléaire a estimé que 2 réacteurs du sud-ouest du pays remplissaient les critères de sûreté requis. La décision du redémarrage reviendra aux dirigeants politiques locaux et nationaux. On sait le gouvernement de Shinzo Abe favorable à une relance du secteur nucléaire, et ce malgré l'opposition d'une partie de sa population. Mais pour Jean-Marie Brom, chercheur au CNRS en physique nucléaire et membre du réseau Sortir du nucléaire, cette décision est tout à fait regrettable.
Le Japon a décidé qu'il n'avait pas le choix. C'est-à-dire qu'au lieu de réfléchir à avoir un autre rapport à l'énergie, eh bien ils ont dit que comme ils n'ont pas de matière première combustible, eh bien ils revenaient vers le nucléaire avec tous les risques que ça peut comporter. Je crois que c'est une très mauvaise décision qui est toujours d'avancer sur du sable, préférant l'inconnu et le désastre potentiel à quelque chose qui pourrait être porteur d'avenir.
Et pour finir, nouveau rebondissement dans l'enquête sur l'assassinat des moines de Tibérine. Les autorités algériennes demandent l'audition de 2 anciens membres des services secrets français. Elles veulent enquêter sur les négociations qui ont eu lieu entre la DGSE et le GIA, le groupe islamique armé qui aurait enlevé enlever les sept moines. Cette demande algérienne intervient quelques jours après que le juge français Marc Trévidic ait fait part de son exaspération dans les médias. Il attend toujours l'invitation officielle d'Alger pour assister à l'autopsie des têtes des moines. Selon maître Patrick Baudouin, l'avocat des familles des victimes, cette demande d'audition n'est qu'une diversion.
Il s'agit simplement de faire pièce à la procédure en cours en France et d'essayer par ce biais de l'entraver. Il n'y a aucune coopération de la part des autorités algériennes au titre de l'entraide judiciaire, ce qui est une obligation pour l'Algérie. Les autorités algériennes, elles, demandent à la justice française d'apporter son concours pour pouvoir auditionner deux personnes qui ont été d'ailleurs entendues par le juge d'instruction français, M. Trévidic. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'on avancera. Les autorités algériennes le savent parfaitement bien. La recherche de la vérité, elle passe par certaines investigations élémentaires telles que l'autopsie.